Très bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'extrême droite aux portes du pouvoir en Autriche. Le FPE a réalisé l'un de ses meilleurs scores hier aux élections législatives. Position de force face au jeune conservateur gagnant Sébastien Kurz. Leurs programmes d'ailleurs se rejoignent, vous l'entendrez.
Le chavisme gagne de nouveau du terrain au Venezuela. Victoire du camp Maduro lors d'élections régionales hier. L'opposition conteste et appelle à diriger des activités de rue.
Dans ce journal également, nous reviendrons sur le premier bilan télévisé du président Macron. Justification de ses sorties médiatiques et de ses réformes. Emmanuel Macron assume tout, arguments à l'appui. Jean-Marc Chardon fera le tour pour nous des clarifications économiques.
Et puis dans un quart d'heure, dans son billet politique, Ludovic Piétenu analysera ce discours où quand Emmanuel Macron se grandit, dit-il, en rabaissant François Hollande.
Avant cela, nous ferons un point sur les revendications salariales des fonctionnaires. Leurs représentants syndicaux seront à Bercy aujourd'hui. En l'an 2000, l'Union européenne adoptait des sanctions à l'encontre de l'Autriche, où l'extrême droite entrait au gouvernement. 17 ans plus tard, le FPE prépare son retour au pouvoir, presque sans surprise ni mise en garde. L'extrême droite a gagné hier une position de faiseur de roi aux législatives face au jeune conservateur gagnant Sébastien Kurz, futur chancelier d'Autriche. Arrivé troisième, derrière les sociaux-démocrates, l'extrême droite a de fortes chances d'être choisie par les conservateurs pour former une majorité absolue. Le FPE a rassemblé hier 26% des voix. Isorias a passé la soirée aux côtés de ses militants à Vienne hier soir.
Qu'importe leur place, les militants célèbrent leur score, supérieur de 6 points au moins par rapport à celui des précédentes législatives en 2013. Un progrès aux yeux de Lucas.
Je pense que c'est un vrai succès. Le FPO s'est définitivement installé au cœur de la société autrichienne.
À la tribune, Heinz Christian Strache, le leader du parti, se félicite d'une campagne menée sur ses thèmes de prédilection, et notamment l'immigration. C'est sans doute l'une des raisons du succès de l'extrême droite, selon Thomas, un militant de 22 ans.
Il n'y a pas eu de contrôle sur l'immigration ces dernières années. Les citoyens se sentent délaissés. Je suis content que ce sentiment se retrouve aujourd'hui dans les résultats.
Tous les regards se tournent désormais vers Sébastien Kurz, le jeune leader conservateur arrivé en tête. Les militants comme Marvin sont persuadés qu'il les choisira pour la future coalition.
Le Parti conservateur a copié nos positions. Il est clair que nous avançons dans la même direction. Maintenant, il faut que les choses changent en Autriche.
L'alliance entre conservateurs et extrême droite a déjà existé au niveau national. C'était en 2000, l'expérience avait duré 6 ans. Il faudra patienter plusieurs jours encore pour savoir si ce scénario se répétera 17 ans après.
Un reportage d'Isorias à Vienne pour France Culture. En Allemagne, les élections régionales en Basse-Saxe d'hier compliquent un peu plus encore la tâche d'Angela Merkel. Son parti, la CDU, est arrivé deuxième au scrutin derrière les sociaux-démocrates du SPD. Les pourparlers pour former un nouveau gouvernement débutent après-demain, mercredi, avec les libéraux et les verts. Et il s'annonce délicat pour la chancelière, un peu plus affaiblie. Le dilemme de Carles Puigdemont, que va faire le dirigeant séparatiste catalan? Le gouvernement espagnol lui a donné jusqu'à ce matin 10 heures pour clarifier sa position. Deux possibilités, soit il confirme l'indépendance de la Catalogne, et dans ce cas-là, Madrid a prévenu qu'elle suspendrait l'autonomie de la région et en prendrait le contrôle, soit Carles Puigdemont recule, ce qui risque de déclencher la colère de ses troupes. Les premiers résultats sont tombés dans la nuit au Venezuela. Le camp du président Nicolas Maduro revendique la victoire lors d'élections régionales. Il aurait emporté 17 des 23 États après des mois de contestation et de violence dans le pays. L'opposition dénonce déjà des fraudes. 3 électeurs sur 5 se sont déplacés. Analyse de ces premiers résultats par le correspondant de RFI à Caracas pour France Culture, Julien Gonzalez.
17 États chavistes contre 5 désormais pour l'opposition, le dernier État restant à définir. Après la nette victoire de l'opposition aux législatives de 2015, les candidats pro-gouvernementaux ont donc inversé la tendance, obtenant donc une large victoire d'après les autorités électorales. À peine les résultats connus, Nicolas Maduro s'est félicité de cette victoire historique du chavisme qui a rassemblé, selon le chef de l'État, 54% des voix dans tout le pays contre 45% pour l'opposition. Résultat symbolique, le chavisme a réussi à s'emparer de l'État de Miranda, qui comprend 4 des les 5 municipalités de Caracas et qui était surtout le fief depuis 8 ans d'Enrique Capriles, l'ex-candidat de l'opposition lors des deux dernières présidentielles. En face, l'opposition a d'ores et déjà affirmé qu'elle ne reconnaît pas les résultats du Conseil national électoral et demande une vérification de tout le processus électoral. Selon les autorités, les nouveaux élus devraient quant à eux prendre leurs fonctions dans les prochains jours et Nicolas Maduro a prévenu, les nouveaux gouverneurs devront prêter serment à la Constituante.
Mais il n'est pour le moment pas question de reconnaître ce vote pour l'opposition. La table pour l'unité démocratique, coalition politique, demande un audit et invite les candidats à, je cite, diriger des activités de rue, aujourd'hui lundi. La bataille de Raqqa contre le groupe État islamique touche à sa fin en Syrie. Il reste moins de 300 djihadistes, ceux qui ont refusé de se rendre. Eux sont déterminés à se battre jusqu'au bout, mais ils ne peuvent plus se servir des civils comme boucliers humains. Tous les civils ont été évacués ce week-end d'après un porte-parole des forces syrienne soutenue par les États-Unis. Le groupe État islamique, accablé en Syrie et en Irak, mais toujours très actif en Asie du Sud-Est, il affronte l'armée philippine depuis le printemps dernier. L'un de ses chefs islamistes, Isnilon Apilon, serait mort. Le ministre philippin de la Défense l'annonce en tout cas. Isnilon Apilon se trouvait sur la liste américaine des terroristes les plus recherchés. 3 jours de deuil national décrétés en Somalie après le double attentat dans sa capitale, Mogadiscio, avant-hier. Le bilan s'alourdit, au moins 276 morts et des blessés par centaines dans l'explosion de 2 véhicules piégés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de ce pays de la Corne de l'Afrique, l'un des plus pauvres de la planète. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il semble porter la marque des Chebabs liés à Al-Qaïda. Christian Chesneau.
Depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2011 à Mogadiscio, les Chebabs, mouvement djihadiste affilié à la nébuleuse d'Al-Qaïda, ont juré la perte du gouvernement somalien qu'ils considèrent comme composé d'apostats et inféodé à l'Occident. Sur le terrain, le pouvoir central somalien reste fragile, c'est pourquoi il est épaulé par les 22 000 soldats de l'Union africaine. Dans cette guerre d'usure et de harcèlement, les djihadistes frappent régulièrement, le plus souvent des objectifs militaires, ministériels ou administratifs, mais les Chebabs n'hésitent pas aussi à mener des attaques terroristes pour tuer le plus grand nombre de civils à coups de voitures ou de camions piégés, notamment contre des hôtels. Le carnage de ce week-end n'est sans doute pas fortuit, il ressemble à une réponse sanglante des djihadistes au président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. Il y a quelques jours, ce dernier avait promis une lutte impitoyable contre le terrorisme. Bref, même si on les dit affaiblis, les Chebabs restent une menace permanente pour les autorités de Mogadiscio.
Emmanuel Macron continuera sur le même rythme avec la même détermination. Le chef de l'État a justifié pendant plus d'une heure hier soir sur TF1 et LCI ses 5 premiers mois au pouvoir. Il a défendu une forme de vérité face à l'émoi suscité notamment à gauche par ses récents propos sur le bordel ou les feignants. Lui se dit pragmatique, notamment quand il explique sa réforme sur l'impôt sur la fortune.
Les gens qui réussissaient, ils sont partis. Et parce que les gens qui réussissaient vraiment, ils ont fait des montages parce qu'il y a un plafonnement, les règles sont complexes, ils ne l'ont pas payé. Il y a quelques mois, rappelez-vous, un journal qui sort le mercredi matin chaque semaine, Canard Enchaîné, montrait que les grandes fortunes françaises ne payaient pas l'ISF. Donc on est dans la grande hypocrisie française. C'est une taxe pour millionnaires mais pas pour milliardaires. Elle n'est pas vraiment juste. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable.
C'est le fameux ruissellement.
Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole.
Cette célébration de ceux qui réussissent donc hier soir sur TF1 et LCI et tout de même protection des plus pauvres. Emmanuel Macron s'est employé également à développer longuement le deuxième acte de ses réformes. Jean-Marc Chardon, vous avez attentivement écouté le président hier soir, bonjour.
Bonjour.
Il s'agit de protéger les salariés, chiffres, annonces et arguments à l'appui.
Et oui, il est entré de plein pied dans le champ des réformes qui vont être discutées entre le gouvernement et les partenaires sociaux, déjà sur la formation professionnelle où il confirme que c'est bien la somme de 15 milliards qui vont être débloqués. Alors comme cette somme est considérable, il était sans doute nécessaire qu'il la justifie au regard des expériences passées qui révèlent tout simplement les insuffisances de la formation professionnelle et le nombre d'échecs. À être complété, ce sont les jeunes, les chômeurs de longue durée et aussi les seniors qui seront les publics prioritaires de cette réforme. Réforme dont le coût n'est peut-être pas exorbitant à l'entendre dans la mesure où une formation c'est 6 mois en moyenne, mais ça rapprocherait davantage de l'emploi que des des emplois aidés sans perspective qui durent. Et donc ça, c'est un pari. Autre précision, celle qui touche aux démissionnaires, avec cette clause leur permettant de toucher le chômage, oui, mais pas automatiquement, contre un projet, a assuré Emmanuel Macron. On sait que la mesure, évaluée à 14 milliards d'euros, va coûter cher au budget de l'État. Emmanuel Macron relativise en faisant valoir le coût des ruptures conventionnelles. Il est vrai qu'elles se sont banalisées considérablement, et cela dans une grande opacité au cours des dernières années, et suivant les bénéficiaires. L'efficacité d'un nouveau dispositif reste tout de même à démontrer. Enfin, il y a ce débat que veut lancer le président sur la participation dans un troisième volet de réforme. On ne compte guère aujourd'hui qu'un salarié sur deux qui en bénéficie, et fort peu dans les PME. De quoi se rapprocher, on l'a compris, de la CFDT, d'une fraction, du patronat aussi, les jeunes dirigeants en particulier. Mais depuis quasiment 50 ans, il faut dire que les formules de participation patinent. La question aujourd'hui, c'est surtout d'aboutir à une généralisation en entreprise, et ça aussi, c'est un pari.
Merci Jean-Marc Chardon du service économie de France Culture. Emmanuel Macron promet que les résultats économiques attendront leur plénitude d'ici un an et demi ou deux ans. Et déjà des réactions dès hier soir, il y a une confusion entre jalousie et justice sociale pour la gauche, exercice d'autosatisfaction pour la droite et l'extrême droite. Le chef de l'État a également évoqué hier le harcèlement, souhaitant une procédure de verbalisation plus simple pour les résultats immédiats. Réponse au scandale notamment de l'affaire Weinstein, ce producteur américain accusé de harcèlement sexuel et viol par de nombreuses actrices. Depuis une semaine, les langues se délient. Un hashtag sur Twitter, hashtag dénonce ton porc, a pris de l'ampleur ce week-end en France, dévoilant au grand jour le harcèlement au quotidien de centaines de femmes. Pour l'historienne du féminisme Michèle Rio-Sarcey, ces prises de parole ne sont pas le signe d'une révolution, mais d'une évolution historique.
Le fait que collectivement elles aient décidé, sans même se concerter, de plus se taire, de rompre le silence, et de s'exprimer sur ce qui leur est arrivé. C'est complètement nouveau, ça. Le fait que les femmes s'expriment, s'emparent de l'espace public, que ce soit des réseaux sociaux, ou la parole, ou les journaux. L'espace public, on l'a découvert récemment, n'est pas fait pour les femmes. C'est la raison pour laquelle les femelles sont si mal considérées. Qu'est-ce qu'elles font, les femelles? Elles disent, en tant que femmes, puisqu'elles sont seins nus, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, et elles tiennent des propos politiques. Et c'est inadmissible, une femme n'a pas le droit de s'exprimer. Donc c'est ça qui est en train de changer, non pas un bouleversement dans les rapports sociaux. Je n'y crois absolument pas, quelles que soient les mesures prises par les autorités, de toute façon, ça sera simplement symbolique. Ce qui change, c'est que les femmes ne se taisent plus. Et ça, c'est extrêmement important. Ça n'a jamais existé, à mon sens.
Michèle Rio-Sarcey, interrogée par Valentine Joubin. Hasard du calendrier, la secrétaire d'État Marlène Schiappa annonce une loi ce lundi contre les violences sexistes et sexuelles, pénalisant notamment le harcèlement de rue et rallongement du délai de prescription des crimes sexuels, actuellement fixé à 20 ans. Dossier complet sur le harcèlement et la parole libérée à retrouver sur franceculture.fr. Les fonctionnaires exigent un geste salarial. Leurs syndicats seront reçus cet après-midi par leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, une semaine après la forte mobilisation. Un fonctionnaire sur 10 était en grève mardi dernier. Il pourrait donc être un peu mieux entendu lors de ce rendez-vous salarial, Lise Verbeck.
La grève de mardi dernier a d'autant plus de poids qu'ont défilé côte à côte les 9 fédérations de fonctionnaires, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Lors de ce rendez-vous, les syndicats sont donc d'accord concernant leurs revendications, notamment la fin du gel du point d'indice. Baptiste Talbot est secrétaire général de la CGT Service Public.
La première des choses et la première des honnêtetés qu'on attend de la part du gouvernement, c'est de reconnaître qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Nous, après, on n'est pas focalisé sur un chiffre, on souligne quand même que les pertes sont absolument considérables. Ce qu'on attend au premier chef, c'est cette reconnaissance-là et que donc il y ait un geste sur le point d'indice. Après, la hauteur du geste, ça fait partie de la négociation.
Autre point qui sera évoqué, la hausse de la CSG. Si le Premier ministre a annoncé qu'elle sera compensée par des primes, le dispositif est incomplet, selon Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique.
D'abord, il ne concerne pas tout le monde, en particulier les personnes qui sont à temps partiel et qui reprendraient ensuite. Ensuite, les personnes qui sont jeunes et qui débutent dans le métier dans la fonction publique après 2018. Et puis, cette compensation est ponctuelle à un instant T. Elle est calculée une fois au 1er janvier 2018 et elle n'est jamais recalculée, ce qui est une différence majeure avec le gain des salariés du privé qui sera 1,45% en continu.
L'UNSA compte également demander à son ministre de tutelle de respecter le calendrier prévu sous le précédent quinquennat concernant le parcours professionnel, carrière et rémunération, un protocole qui est avantageux pour la retraite des fonctionnaires. Le gouvernement envisage de remettre en cause ce calendrier comme le préconise la Cour des comptes.
Autre rendez-vous social toujours à Bercy aujourd'hui. La direction de General Electric Alstom est attendue pour s'expliquer. Elle souhaite supprimer 345 des 800 postes sur le site de Grenoble, alors qu'elle avait promis de créer des emplois. Quelques mots de météo à présent. Encore une journée très ensoleillée, Guillaume, et douce pour la saison. Ça vous donne le sourire. Le nord sera aussi bien loti que le sud aujourd'hui. 17 à 24 degrés ce matin en moyenne, 22 à 26 cet après-midi.